Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Julien Marel. Je prends la parole avant l'épisode du jour pour vous annoncer qu'il s'agit aujourd'hui de la dernière émission régulière de l'année. Cependant, on enregistre une émission spéciale, en public. Ce sera à la Fabrique à Impro à Nantes le jeudi 20 juillet à 21h. On a prévu plein de surprises, plein de happenings. Donc si vous aimez l'émission à la radio ou en podcast, vous devriez vous régaler de voir ça en vrai. N'hésitez pas à venir. Ensuite, on va prendre une pause, on revient à la rentrée avec un nouveau format, mais toujours pour vous raconter l'histoire avec un grand I. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram pour être au courant de toutes nos actualités. D'ici là, portez-vous bien et bonne émission.
C'est l'histoire.
L'histoire.
Avec un grand I.
Quelle histoire ?
Chaque semaine, la fine équipe de l'histoire avec un grand I étudie avec vous un nouvel événement historique.
Elle occupe de plus en plus de place dans les débats publics, cristallise les discussions pour, contre, trop violente, pas assez, légitime ou non, et est souvent la première représentation de l'État qu'on croise dans la rue. La police, si elle est partout, ne vient pas de nulle part. Maréchaussée, puis gendarmerie, il faudra attendre 1667 pour voir Gabriel Nicolas de la Reynie nommé premier lieutenant général de police, et ainsi peut-il être considéré comme le premier policier de France. Alors pour revenir avec moi sur l'histoire avec un grand I de la police, la meilleure équipe d'historiens à la radio. Bonjour Thierry Lafleur.
Bonjour.
Bonjour Alexandre Belin.
Bien le bonjour.
Bonjour Julien Marel.
Bonjour, bonjour à tous.
L'histoire avec un grand I sur Prune.
Première question pour commencer à retracer l'histoire de la police. Hein. Qui était donc ce monsieur Gabriel Nicolas de la Reynie que Louis XIV nomma premier lieutenant général de la police à Paris?
C'était un forcené. C'était un forcené qui semait la terreur dans les rues de Paris, finalement, et qui avait sous son aile, finalement, tout un gang, comme on appelait ça, mais il avait tout plein de malfrats, finalement, qui travaillaient pour lui.
C'est une manœuvre de Louis XIV de mettre l'Araignée, puisqu'on l'appelait l'Araignée, Gabriel Nicolas de l'Araignée, parmi les gens de Paris à cette époque. C'est une manœuvre parce que il donne du pouvoir à un groupe qui sème la zizanie en leur disant je vous paye à le faire, je vous paye à continuer de semer la terreur.
Ouais, et puis d'exercer du contrôle sur le
d'exercer
peuple.
D'exercer du contrôle. Mmh. Vous avez du contrôle et vous faites tout ça pour avoir de l'argent. Je vais déjà vous donner l'argent, mais je vous demande d'exercer mon contrôle.
Un espèce de contrat finalement que Louis XIV va faire avec cette bande de malfrats. Pourquoi cette bande en particulier et pas une autre?
Alors, il faut déjà replacer dans le contexte. La maréchaussée existait à l'époque, mais la maréchaussée à l'époque portait bien son nom. En fait, c'était des pêcheurs à qui on avait donné des chaussures et qu'on avait fait venir des côtes. Donc la maréchaussée, parce qu'ils sentaient très fort le goémon. Et on leur avait donné des chaussures, on leur avait demandé d'exercer le contrôle dans la ville, mais voilà, ils n'étaient pas...
C'était des marins, ils n'étaient pas habitués.
C'était des marins,
on les avait choisis pour leur carrure. Et,
oui, c'est ça.
Et en fait, pas du tout, ils n'ont aucune autorité. Donc c'était très difficile finalement de faire exercer un semblant d'ordre dans la ville de Paris avec des pêcheurs. Là où par contre, Gabriel Nicolas de la Reynie...
Le mal du pays en plus, parce que...
Bah oui, ils veulent rentrer en permanence.
Ils veulent rentrer.
Combien de gens de la maréchaussée on a retrouvé sur les routes à essayer de regagner la Bretagne, la Manche, la Méditerranée, alors qu'en fait, on les ramenait toujours à Paris, on leur demandait de faire...
Ils n'avaient pas envie.
Ils n'avaient pas envie. Alors que...
Tout ce qui les intéressait dans cette histoire, c'était les chaussures. Hein.
Voilà. Oui, ils sont venus pour les chaussures, mais très vite, ils se sont rendus compte que, bon, c'est difficile de se détacher de l'océan.
Mais ils ont vite déchaussé.
Alors que la Reynie, enfin Gabriel Nicolas de la Reynie, lui... Il sait déjà faire ça. On en a la preuve, il est identifié. Donc, finalement, Louis XIV se dit « Laissons la maréchaussée rentrer chez eux et faisons quelque chose avec la Reynie. »
Faisons quelque chose avec la Reynie. Quelles vont être les premières missions de cette toute nouvelle police construite avec des premiers malfrats?
Police, c'est pas un hasard si ça s'appelle la police. C'est parce que ce sont des polissons, hein, en fait, comme la cour les appelait, c'était des mauvais garçons.
Des vilains garnements.
Des vilains garnements. Et donc leurs premières missions, ce sont des missions de vilains garnements, c'est-à-dire aller mettre la pression, voire exercer des violences physiques contre les commerçants qui ne payaient pas leurs taxes, qui ne payaient pas la dîme. Et donc voilà, c'est exercer des violences contre le peuple qui ne respectait pas l'autorité de Louis XIV ou qui ne se pliait pas aux règles que Louis XIV avait fixées.
On parle de combien de personnes environ?
Alors, il y avait policiers. Gabriel Nicolas de Larrenie et on compte sous son commandement à l'époque une quinzaine de polissons.
Une quinzaine de polissons.
On les appelait vraiment des polissons à ce moment-là. Et c'est ce qui a donné police, évidemment, hein, comme on l'avait dit Julien.
Ça a dérivé en police.
Mais effectivement, on les appelait les polissons. Ouais.
Et donc très vite, le peuple se hisse contre cet organe créé par Louis XIV.
Parce qu'on se rend compte, parce que finalement, on connaissait les méthodes de l'Araignée, mais finalement, petit à petit, au bout de quelques mois, on se rend compte que l'Araignée travaille pour la couronne. Et c'est là où, justement, vous le disiez, le peuple commence à gronder.
Mais oui, le peuple n'est pas dupe. Le peuple est bien plus intelligent que ce que Louis XIV lui prête. Et donc, bah voilà, des manifestations, et on commence à voir apparaître des premiers coups de pinceau sur les murs de Paris. LPSDB, les polissons sont des bâtards.
Ah oui, donc déjà, en fait, c'est un peu les débuts des manifestations et de l'opposition qu'on retrouve toujours aujourd'hui dans les rues entre le peuple et la police.
Première manifestation, je dirais pas manifestation, dans le sens où c'était plutôt statique, ça n'avançait pas beaucoup. Ils allaient devant le château et ils criaient. Voilà. Donc c'était plutôt des... Comment appeler ça ?
Des sittings.
Oui, des sittings, ouais. Des sittings où on gueule.
Et en fait, c'est devenu des manifestations, justement, à cause des polissons et de l'araignée qui, finalement, régulièrement venaient chasser ces gens qui étaient assis. Donc ces gens devaient se lever, marcher, mais ils allaient à un autre endroit.
Être constamment en mouvement pour ne pas se faire...
pour ne pas se faire attraper par les polissons. Ouais. Et en fait, c'est ça, les manifestations. C'est constamment fuir les polissons.
Constamment fuir les polissons. Vous avez parlé d'un château.
Oui.
Moi, je fais le lien très vite, mais peut-être un peu trop vite, avec ce qu'on connaît aujourd'hui, le commissariat. Est-ce que c'est le premier commissariat que vous évoquez là ?
Oui, parce que c'est contre ce commissariat qu'on... Le premier commissariat, on l'appelait le château.
C'était le château de l'Araignée.
Oui,
le château de Gabriel Nicolas l'Araignée.
C'était lui qui avait donné ce nom-là à son centre de... Il n'y avait pas de nom, encore à l'époque.
Ce n'était pas un réel château, non. Dans le sens... pas le château du roi, c'était Nicolas de l'Araignée qui... pris de la folie des grandeurs.
Tout à fait.
Et
c'est ça.
C'était
sa demeure
de fonction prêtée par Louis XIV. Il s'imaginait roi des polissons, mais ça n'avait rien à un château au sens où on l'entend.
Très bien. Donc le château, les premières manifestations et 15 premiers polissons, ça dessine le début de la police. On se retrouve juste après la pause musicale. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. Stand clear, done, man. I talk. You can't stand where I stand. You can't walk. Over. Son of the Police par KRS-One, et nous revoilà dans l'histoire avec un grand I. On vient de dessiner la forme que prenait le premier groupe de policiers à Paris, sous le commandement de Gabriel Nicolas de la Reigny, premier lieutenant général de la police. On n'a pas encore parlé des premiers grands faits d'armes, hein, ce pourquoi la police est connue à l'époque. Est-ce qu'on peut en détailler un, hein?
Justement, et ça va être un tournant finalement, c'est qu'on va avoir les premières arrestations. Les premières arrestations, c'est finalement tous ces gens qui manifestaient finalement, puisqu'ils avaient pris l'habitude de manifester pour fuir les polissons autour du château. Finalement, ils vont se faire arrêter un jour. Un jour, Gabriel Nicolas de la Reigny va en avoir marre. Il va tous les coffrer. Mais les coffrer littéralement, c'est-à-dire que c'est de là que vient le mot, c'est-à-dire qu'il va les enfermer dans des coffres. Et il va faire ça à l'intérieur du château. Tout cela sans avoir reçu aucun ordre de la part du roi. Et finalement, cette répression violente, trop violente, va déplaire à Louis XIV, qui va mettre en place un deuxième lieutenant général de la police. Ou plutôt une deuxième lieutenant général de la police.
Ah, donc là, on voit l'introduction d'un ou d'une nouvelle protagoniste dans cette affaire. De qui il s'agit ?
Véronique Dumont-Bleu.
Qui est boulangère, à la base, et qui en fait exerce ce même pouvoir qu'avait Gabriel Nicolas de la Reigny et que recherchait Louis XIV, cette forme de respect et d'autorité, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que Gabriel Nicolas de la Reigny se met la terreur, tandis que Véronique, parce que moi je l'appelle Véronique, hein, je l'adore.
Véro.
Elle sème du bonheur.
Elle était connue vraiment dans tout Paris pour faire les meilleures baguettes, déjà, et pour parce qu'elle était très gentille, très sympa. Elle était sympa.
Adorable.
Ouais. Voilà, toujours la bonne humeur, Véronique, et elle était vraiment elle n'hésitait pas à offrir à offrir le pain, Véronique.
Elle avait un sourire un peu édenté, qui transmettait beaucoup de joie et qui lui a valu son surnom de 17, parce qu'elle n'avait que 17 dents. Et d'ailleurs, lorsqu'on voulait...
On l'appelle la 17.
La 17. Et d'ailleurs, c'est devenu une espèce de... c'est de là que vient le numéro de téléphone de la police aujourd'hui. Par exemple, c'est lorsque vous voyez Véronique passer et que vous aviez un problème chez vous, vous alliez à votre fenêtre et vous criez « Hey, la 17, monte voir, j'ai quelque chose qui pourrait intéresser la bonne police. »
La bonne police. Donc là, on voit un peu se dessiner, si je comprends bien, deux visions différentes du maintien de l'ordre.
Maintien de l'ordre, oui, tout à fait.
À l'époque, avec une version répressive par le premier lieutenant général de la police, Gabriel Nicolas de la Reigny, et une version beaucoup plus proche du peuple avec Véronique.
Voilà, Véronique qui connaissait tout le monde, et tout le monde connaissait Véronique. Et c'est pour ça que ça marchait, finalement. Et ça marchait très bien, mais ça a déplu à Gabriel Nicolas de la Reigny.
Ah, donc là, ce que vous dessinez, c'est un potentiel conflit entre les deux personnes.
Ah bah, totalement. Potentiel conflit qui atteindra son sommet en 1674, où ils vont arriver sur une affaire que le roi leur aura distribuée, aura donné aux deux polices en même temps. Ça, c'était une erreur de le faire. Mais voilà. Un problématique de vol de poule, C'est un cliché, mais c'est la classique. Hein.
C'était un véritable vol de poule.
Véritable vol de poule. Donc, vol de poule dans le 13e arrondissement. Et ils vont arriver en même temps et ils vont revendiquer l'arrestation. C'était un enfant. Ouais, en plus, c'était Marc Lambert, un petit enfant d'à peine 8 ans qui avait volé une poule, mais... malgré lui, en fait, il avait...
la poule l'avait suivi.
C'était plus. Oui.
Bon, ouais,
la faute n'a pas de chance.
Pas beaucoup d'importance.
Non, oui.
Mais voilà, là où Véronique va vouloir la relaxe de l'enfant, Nicolas Larrigny va être très dur, va vouloir
le coffret
et surtout le mettre à mort. Et Véronique Dumont-Bleu s'y oppose. Et là, Gabriel Nicolas de Larrigny arrête. Place en état d'arrestation Véronique Dumont-Bleu pour obstruction aux policiers, et donc elle est coffrée et elle arrête Gabriel Nicolas de Larrigny.
Et lui aussi est-il coffré ou...
Mais les deux sont coffrés.
Ils se retrouvent tous les deux en cellule dans le château.
Ah oui, donc là ça fait un peu c'est un peu problématique quand les deux premiers lieutenants généraux de la police à Paris sont tous les deux coffrés.
Ils sont coffrés et ils sont donc l'unité de Véronique, qui est une unité qui était pareil, dépeinte comme une unité de police très sympathique, évidemment c'était tous les amis de Véronique qu'elle avait embauchés, se retrouvent à aller dans le château aussi, alors qu'eux avaient leur propre poste à la base, et tout le monde commence à cohabiter avec un espèce dans une espèce d'atmosphère très tendue, où les deux lieutenants sont tous les deux dans un coffre, et avec toutes leurs unités autour, en train de se regarder dans le blanc des yeux, en se demandant comment on bouge maintenant, qu'est-ce qu'on va faire.
Et le peuple va manifester, parce que bah, forcément, on emprisonne Véro, qui est adorable et qui est aimé par le tout Paris, et à la fois, on emprisonne également Gabriel Nicolas de Larrigny, qui lui est détesté, donc c'est un événement très positif et un événement très négatif
et
en
le
même
petit,
temps.
Et le petit Marc Lambert est aussi coffré.
Et le petit Marc Lambert est coffré.
Encore malgré lui, vraiment, c'est... Il n'y a vraiment pas eu de chance, cet enfant.
Il sera coffré avec la poule.
Il sera coffré avec la poule, qui est une preuve à conviction. En attendant que se règle, que tombe un verdict. Qui a raison là-dedans? En fait, son destin se retrouve fortement lié avec cette espèce de querelle de police en 1674.
Comment va réagir le roi face à cette situation très problématique pour ces policiers?
Bien, ils veulent se rendre sur place, tout simplement, parce qu'en fait, personne ne peut régler ce conflit, vu que le premier et le deuxième lieutenant général sont coffrés. Donc en fait, il va se rendre sur place pour régler lui-même cette affaire. Il va être escorté exceptionnellement par quelques personnes de la maréchaussée, qui n'étaient pas encore parties. Et une fois qu'on remarquera que... Sur la peinture, la fameuse peinture où on voit marqué Louis XIV arrivant au château, avec des guillemets autour de château bien sûr, on voit Louis XIV arrivant avec deux pêcheurs dans le château en les tenant par la main pour ne pas qu'ils s'enfuient.
Et en même temps, une tierce personne derrière lui bouchant le nez car les pêcheurs sentaient très mauvais, sentaient le goémon.
Et donc Louis XIV arrive.
Et en essayant de décortiquer la situation, il se rend bien compte que le point de bascule de cette histoire, c'est Marc Lambert et la poule. Et il se rend compte que pour pouvoir déterminer qui a raison là-dedans, même si le peuple fait pression pour libérer Véronique et laisser Larrigny
dans son coffre.
Il doit quand même rendre verdict. Et donc il décide de procéder à un interrogatoire, de régler l'enquête de Marc Lambert pour savoir si, oui ou non, Marc Lambert a commis un crime. Et c'est un des interrogatoires les plus célèbres de l'histoire, l'interrogatoire de Marc Lambert, où les deux commandants de police, lieutenants de police, Véro et Larrigny, vont interroger en même temps le petit Marc Lambert.
Et ça va donner ce trope très connu qui est le good cop, bad cop, le bon flic, mauvais flic, la bonne flic en l'occurrence et le mauvais flic vont interroger le petit Marc Lambert, tantôt en lui mettant des coups de pression, tantôt en étant amical.
En lui servant un café.
Sauf qu'à cette époque-là, ce n'était pas une manœuvre. c'était juste la personnalité de nos deux protagonistes qui étaient l'araignée et Véronique. Mais au final, voilà, le fait est que l'interrogatoire a été un succès phénoménal et que la méthode est restée.
Bah, y a eu un... Ils ont fait une reconstitution avec la poule. Ils ont mis quelqu'un d'autre dans la peau de Marc Lambert. Ils ont mis la poule dans la rue. Quelqu'un a croisé la poule et la poule l'a suivie jusqu'à chez cette personne tierce. Et donc on s'est dit que, a priori, si la poule l'a fait déjà une fois devant nos yeux, pourquoi elle ne l'aurait pas fait avec le petit Marc Lambert et...
Oui, on a mis ça sous le compte de la personnalité amicale de la poule. Et donc Marc Lambert a été décoffré.
Et c'est là qu'est le... un nouveau drame finalement, c'est que finalement on se rend compte que Véro avait raison, enfin que finalement l'enfant n'a rien à voir là-dedans et que finalement l'enfant ne va pas être mis à mort, il va être acquitté, ce qui met Gabriel Nicolas de l'Araignée dans une colère noire, qui se saisit d'une pierre qu'il avait à proximité pour la lancer sur le petit Marc Lambert dans le but de lui faire du mal. Véro va s'interposer d'une manière magistrale et va protéger le petit Marc Lambert. Le caillou plutôt conséquent va atterrir dans l'œil de Véro et va l'éborgner. Elle restera borgne toute sa vie.
Donc elle perd un œil à cause de son supérieur finalement, qui est le premier lieutenant général de la police.
Encore une fois, quelque chose de très noble. Véro la borgne, en tout cas le symbole, ce qu'elle représente, marquera le début d'une opposition féroce à la police de l'Araignée et qui aboutira à sa décapitation quelques années plus tard.
Donc on va décapiter de l'Araignée pour quel motif?
Pendant la Révolution, on groupe des têtes à tout va, de l'Araignée passera au même titre que tous les malfrats qu'il dirigeait.
Et on gardera uniquement elle l'avait appelé son poste de ça ne s'appelait pas la police, hein, ça s'appelait le poste de la 17 qui était l'équivalent du château pour l'araignée. On gardera uniquement après la Révolution française la bonne police voilà. Mais alors pourquoi on appelle ça encore la police aujourd'hui?
Il y a encore des travers dans la police aujourd'hui, donc...
Le problème, c'est qu'on a eu une bonne police pendant très longtemps, et puis après, est arrivée la Seconde Guerre mondiale, et alors là, c'était reparti, quoi. C'était parti comme en 1667, j'ai envie de vous dire.
Donc après la Révolution française, il ne restera que la bonne police, la police version 17, telle que vous l'avez présentée, celle de...
La police de Véro.
La police de Véro, tout à fait. Comment va se dérouler le reste de l'histoire? Parce que cette police s'installe, ne va pas rester qu'à Paris. Comment le peuple va réagir à cette nouvelle doctrine du maintien de l'ordre?
C'est très très bien perçu à l'époque, hein. La 17 débarquant dans les villages, en fait, Véronique Dumont-Bleu a fait le tour de la France pour nommer dans chaque village les gens qu'elle voulait voir appartenir à
beaucoup de boulangers,
à sa police.
C'est ça, à chaque nouveau poste de police, c'est une nouvelle boulangerie qui ouvre dans un village, donc vous imaginez l'aubaine.
Et les boulangers, c'est des gens qui en ont confiance. Vous avez un problème, vous rentrez dans une boulangerie, c'est bien connu. Et donc, voilà, les boulangers sont nommés, en tout cas, un certain nombre de boulangers sont nommés policiers à la 17. Et donc voilà, on a cet engouement dans les villages de on a des gens qui vont se charger de coffrer les malfrats. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas à l'époque. Hein. Les malfrats étaient en liberté. Et donc là, les malfrats sont coffrés du jour au lendemain.
Après, la technique du coffrage en lui-même, on continue de dire coffrer, mais on arrête de mettre les gens dans des coffres. Véronique Dumont-Bleu ne pratique pas du tout ce genre de choses.
Elle préférait tout simplement laisser quelqu'un qui les surveillait, qui les gardait en vue, juste garder un œil dessus. Donc ils n'étaient plus arrêtés, on les gardait à vue.
On les gardait à vue.
Voilà.
Ça paraît en effet plus raisonnable. Quels vont être les principaux faits d'armes de cette nouvelle police remaniée?
Bah écoutez, la disparition des voleurs de poules en France déjà, qui était un groupe qui sévissait à travers toute la France, et donc où si vous aviez des poules quand vous étiez propriétaire de poules, c'était très compliqué, plus que les renards. La véritable raison pour laquelle votre activité pouvait s'effondrer, c'était parce que le gang des voleurs de poules venait voler vos poules. Ils ont tous été coffrés. Et, donc,
Et ça s'est passé comment? Comment la police y est pris pour,
bah, pour ça a coffrer été une... Ils ont utilisé du
pain. Ils ont utilisé du pain.
Ouais, tout à fait.
Un coup de filet simultané, technique qu'ils ont repris à la Maréchaussée, où ils ont attiré beaucoup de poules à un endroit servant d'un appât grâce à du pain. Et donc, et là, donc le pain a appâté les poules ont appâté les voleurs de poules, et en simultané à travers la France, on a arrêté, grâce à un grand filet, à plusieurs endroits différents, le gang des voleurs de poules.
Donc très efficace, je suppose que le peuple a dû bien réagir à, ouais, à cet événement. À l'époque, à quoi ressemblait le quotidien d'un membre de la police du 17 en particulier ?
4h du matin, au fourneau, pour préparer les premières baguettes.
C'est vrai qu'au final, c'était très indissociable. Le rôle de boulanger et de policier, ça a longtemps été très lié. À tel point qu'il n'y avait les deux métiers coexistaient et on n'était pas juste boulanger ou juste policier, on était boulanger-policier.
Boulanger-policier.
Et c'est ce qui amènera finalement...
La matraque était un petit pain traditionnel français à l'époque.
Et c'est ce qui amènera finalement la débâcle, entre guillemets, enfin la police telle qu'on l'a connue par la suite et telle qu'on la connaît encore aujourd'hui, qui peut être répressive, finalement elle va revenir de là, c'est-à-dire que on a ces gens qui exercent deux métiers, qui se lèvent à 4h du matin, qui se couchent très tard le soir, qui ont littéralement des matraques dans les mains, puisqu'ils ont, ils ont du pain à disposition, à profusion. Et finalement, on va avoir les premiers craquages. Partout dans la France, après la Révolution française, on a des témoignages de policiers qui craquent et qui vrillent.
Et finalement, cette culture, elle perdurera pendant des centaines d'années ensuite, et elle donnera la police qu'on connaît aujourd'hui. Mais effectivement, à la base, c'est des boulangers, bon, peut-être des gens qui n'étaient pas faits pour être boulangers ou policiers, qui craquent, qui vrillent.
Très bien, donc des boulangers qui vrillent, ce sera le mot de la fin. Merci à nos invités, merci à vous qui nous avez écoutés. C'était l'Histoire avec un grand I pour un épisode aujourd'hui consacré à l'histoire de la police, la première police de France. Vous retrouvez l'émission en podcast sur prune.net, toutes les plateformes d'écoute et sur Instagram, compte l'Histoire avec un grand I.
C'était l'Histoire avec un grand I. Chaque semaine, retrouvez la fine équipe de l'Histoire avec un grand I afin de revisiter en improvisation totale un fait historique qui n'a jamais eu lieu.